Eh bien, bonjour et puis merci d'être présent pour cette table ronde dont l'intitulé, le sujet est le fantastique au coin de la rue. Et donc avec Mélanie Fazi, qui est l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles, comme Notre-Dame aux écailles, et voilà, Serpentine, et aussi un roman fantastique qui s'appelle Arlis des Forains, avec Oksana Hopp, qui est l'auteur des deux premiers volumes de Go to Hell, et Corinne Vito, qui alors, elle, est une romancière qui a fait de la fantasy, de la science-fiction, et dont le roman le plus récent, donc, est celui-ci, Le Crépuscule des Anges, qui, lui, est du fantastique. Enfin, on va, et justement, nous allons pouvoir en discuter tous ensemble. Alors, déjà lancer un petit peu le débat, je dirais que vous constatez que pour une fois, une table ronde comme celle-ci, je suis le seul homme. Les trois auteurs sont des auteurs féminins, ce qui, dans les domaines de l'imaginaire, est parfois un petit peu rare, surtout si on se penche, par exemple, sur la science-fiction. Bien sûr, on connaît une ou deux exceptions, mais c'est plutôt souvent un domaine masculin. Et là, il semblerait, je dis bien il semblerait, que dans le fantastique, ça attire plutôt souvent des auteurs féminins. Alors, je pense que peut-être la première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de demander à nos trois intervenantes pourquoi elles se sont intéressées plutôt aux fantastiques, ont écrit des romans et des nouvelles de fantastique plutôt qu'un autre domaine de la fantasy ou de la même art science, hein, pourquoi pas. Alors qui veut commencer?
Je vais me lancer alors.
Très bien.
Donc moi c'était par rapport à un poème de Victor Hugo que j'ai lu, relu et plus que lu, qui s'appelle L'Ange Liberté. Et à partir de ce poème, j'ai voulu raconter une histoire fantastique sur les anges et sur le libre arbitre. Donc mon objectif c'était de poser des questions à travers ce livre. J'ai d'ailleurs un lecteur qui est venu me voir tout à l'heure en me disant, mais à la fin finalement on n'a pas de réponse aux questions que vous posez. Mais l'objectif c'était justement de faire réfléchir le lecteur et puis de jouer avec nos propres réflexions sur Dieu, la liberté, etc. Voilà.
Oui, parce qu'il faut ajouter quand même, Corinne, qu'avant d'écrire ce roman fantastique, vous aviez commencé, alors vous êtes l'exception à la règle que je venais d'énoncer, vous aviez d'abord fait une trilogie de fantasy, puis une trilogie de, et des trilogies de science-fiction.
Oui, j'ai commencé par la fantasy chez Clément il y a quelques années maintenant, je ne vais pas calculer, je vais me faire peur, et ensuite deux trilogies de science-fiction, et là j'avais envie de, justement d'aller voir vers le fantastique qui me tentait déjà depuis quelques temps.
Oui, alors moi, au niveau du fantastique, en fait, c'est simplement que j'ai toujours été attirée par le fantastique, le monde de l'occulte. Hein. Et enfin, ça m'a paru normal de tomber directement dedans. Et en plus, ça permet de rêver, de quitter un petit peu le monde ordinaire, pouvoir voir des choses différentes.
Voilà. Oui, on va d'ailleurs revenir dessus, parce qu'avec vous, effectivement, on quitte complètement le monde ordinaire. Hein.
Oui.
Là. Mélanie.
Moi c'est intéressant parce que quelque part c'est presque la démarche inverse. Ce qui m'intéresse dans le fantastique et ce qui fait qu'à un moment donné je m'y suis mise vraiment sérieusement, c'est cet ancrage dans le quotidien. Moi je suis absolument incapable d'inventer, soit me projeter très longtemps dans l'avenir ou d'inventer un monde avec ses règles, etc. Moi j'ai besoin que le point de départ ce soit ici et maintenant. J'ai déjà écrit des textes qui se rapprochent un peu de la fantaisie, mais je n'ai été capable de le faire que dans un contexte contemporain. Mais cela dit, je ne me suis pas posée. Alors, déjà pour j'étais en train de penser pourquoi je suis née au fantastique, parce que j'en lisais beaucoup. Pour être tout à fait honnête, ma première tentative de texte c'était du space opéra, très mauvais, mais j'ai vaguement tenté d'écrire de la SF il y a longtemps, et à un moment donné je lisais énormément de fantastique et ce qui m'a parlé c'est ce côté où effectivement c'est le décor qu'on connaît et ce sont des personnages qui nous ressemblent. Il y a ce côté extrêmement troublant où on peut se projeter dans des personnages qui sont pas des héros, qui sont pas forcément tout blanc, tout noir, etc. Des personnages qui parfois sont pas très sympathiques parce qu'ils ont des failles qui nous ressemblent. Moi j'adore cet aspect-là en particulier. c'est que derrière tout ce que, enfin, derrière toute l'imagerie fantastique, etc., il y a, pour que ça marche, pour que ce soit crédible, et pour moi, en tout cas, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit ancré dans quelque chose de aussi réel que possible. Moi, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas.
Alors là, pour reprendre un poncif, et il ne faudra pas tirer sur le messager, hein, je ne fais que retransmettre. On entend souvent que c'est parce que les hommes sont beaucoup plus rêveurs que les femmes. Les femmes sont toujours beaucoup plus terre à terre, etc. Alors, qu'en pensez-vous, mesdames? Est-ce que c'est pour ça, justement, en écoutant ce que vient de dire Mélanie, est-ce que c'est pour ça que les femmes sont plus attirées par le fantastique? Parce que justement, ce sont des personnages qui sont plus de la vie courante, y compris les vôtres dans leur... je pense à vous, Corinne, et à vous, Oksana, y compris vos personnages. Au début, leur première apparence est une apparence, là aussi, qui est tout à fait banale, quelque part. Ce sont des gens que, comme nous pourrions en rencontrer tous les jours. Donc, alors, est-ce que c'est pour ça que les femmes sont plus attirées par le fantastique que par le space opéra?
Moi, j'avoue, j'aime pas trop ce genre d'idée. Enfin, j'aime pas l'idée de classer les gens ou d'associer quoi que ce soit, de classer les genres par genre, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a autant d'exemples qu'il y a de contre-exemples. Voilà, pour moi, c'est une question d'intérêt personnel. En plus, je suis pas sûre que ce soit aussi... j'en discutais tout à l'heure, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait une théorie sur les auteurs féminins, fantastiques, etc. Et c'était l'époque où il y avait toute la vague, il y avait Anne Rice, il y avait Poppy Zebra, il y avait plein d'auteurs. Et ça me fait rigoler avec le recul, parce que Poppy Zebra a toujours dit se sentir plus comme un homme que comme une femme, et Poppy Zebra, entre-temps, est devenu un homme. Alors que c'était peut-être l'exemple qu'on disait, cette écriture très fleurie, très sensuelle, tout ça, c'est une écriture de femme. Pour moi, rien que cet exemple-là prouve à quel point c'est quelque chose de... Alors après, on a... En tant qu'homme, en tant que femme, etc., on a un vécu différent parce qu'on est élevé différemment, etc. Ça va rejaillir sur certains thèmes. Je sais qu'on discutait, par exemple, avec Lisa Tottol, qui est un auteur que j'adore et que j'ai traduite récemment. On parlait du thème de la maternité en particulier en disant, ça d'accord, en tant que femme, on l'aborde. On s'était dit, quand on écrit de l'horreur et qu'on est une femme, on arrive toujours à ce thème-là parce qu'on grandit en sachant que, voilà, ça peut nous arriver, etc., on aura des enfants, on n'en aura pas, mais on a un rapport qui fatalement est différent de celui des hommes. Il y a quelques thèmes comme ça où effectivement l'approche est différente. Après, pour le reste, moi j'aime pas généraliser sur ça, donc personnellement j'y crois pas.
Qu'en pensez-vous?
Moi je vois sur le stand de voyelles, cet après-midi le hasard a fait que j'avais plus de femmes que d'hommes sur mon stand. Je veux raconter une histoire. Là, c'était fantastique, il s'y prêtait, parce que je ne voyais pas aborder une histoire qui commence de très loin, 70 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à un futur ou un présent incertain. Je ne voyais pas écrire ça dans le genre de science-fiction. En plus, j'avais en idée derrière la tête de m'amuser avec Victor Hugo, et notamment sa période où il s'amusait à faire tourner les tables, il faisait tourner les tables pour communiquer avec l'au-delà, et le transposer dans le futur, à moins de le cloner, etc., ça ne pouvait pas aller non plus. Donc tout ça fait que c'était fantastique, il se prêtait à l'histoire, et j'ai une histoire avant tout, et c'est après qu'on vient de me dire que c'est fantastique, ou c'est de la science-fiction, ou c'est de la fantasy. C'est plutôt l'histoire qui va aller vers l'univers, et pas je vais faire du fantastique, donc ça se débrouille, ça se passe comme ça.
Moi, je veux simplement ajouter que, à mon idée, les hommes sont moins rêveurs que les femmes. Et que les hommes sont plus attirés par la fantaisie où il y a peut-être des batailles, des choses comme ça. Que nous, en fait, on va plus vers ce qui a trait un peu la romance, ce qui pourrait nous arriver. On se met à la place du personnage, en fait. Et même si, par exemple, mon personnage ici paraît banal au départ, en fait, on peut se glisser dans sa peau et justement rêver en disant je peux vivre sa vie. Et voilà.
Cela dit, dans Go to Hell, comme d'ailleurs dans le Crépuscule des gens, les bagarres, il y en a pas mal, hein, il y a beaucoup de beaux combats, chez Mélanie, beaucoup moins, mais chez vous deux, ça casse taille sec quand même, hein, chez Corinne, on en arrive même à la destruction de la ville, quasiment, donc c'est pas mal.
À mon avis, à un moment donné, j'ai pu extérioriser quelque chose, mais non, mais... C'était la bataille du bien contre le mal. En plus, j'avais créé la ville de toutes pièces, donc je me suis dit, autant m'amuser avec jusqu'au bout. Et j'ai tout fait sauter. Je comme je suis enseignante, les élèves m'avaient peut-être énervé ce jour-là, je me suis dit, les boum.
Voilà, donc autant pour les 12 femmes.
Non, en plus, le personnage de Lynn Bélange du Crépuscule des Anges, c'est une femme flic, amoureuse d'une autre femme, qu'elle voit mourir sous ses yeux, et à partir de là, elle s'embarque dans sa quête en fonçant dans le tas et en posant les questions après. Et là, pour le coup, oui, c'est pas madame qui est assise devant la cheminée, qui fait de la broderie en attendant que ça se passe. Loin de là.
Voilà. Alors, bah justement, bon, ça va peut-être nous amener pour rester, ou essayer de rester du moins, dans le thème général de cette table ronde qui est le fantastique au coin de la rue. Alors, on peut peut-être parler déjà de vos personnages, parce que, effectivement, ce qui m'a frappé en lisant vos livres à toutes les trois, c'est que ce sont des personnages qui, au moins au premier abord, lorsqu'on les découvre, sont les gens que l'on peut croiser dans la rue tous les jours. Là, c'est vraiment ceux qu'on peut rencontrer au coin de la rue tous les jours. Donc, ce qui serait peut-être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre des personnages comme cela. Et puis, ensuite, de les développer. Comment avez-vous fait ces choix? Parce que vous venez de le dire, bon, votre héroïne principale, Corinne, est une femme flic. Alors bon, le fait qu'elle ait été amoureuse d'une autre femme qui a été tuée la sort peut-être un tout petit peu du personnage central. Et en plus, on est en plein dans l'actualité aujourd'hui. Mais chez vous, Oksana, bon... C'est un couple qui au premier abord est somme toute relativement banal. La jeune lycéenne qui tombe amoureuse de son beau prof de philo, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit arriver. Quant à toi, Mélanie, t'as des personnages qui sont des gens qui sont ancrés dans la vie de tous les jours, propriétaires de restaurants grecs, etc. Hein. Je pense, par exemple, alors même si ensuite on découvre qu'ils ne sont pas exactement ce qu'ils ont l'air d'être, c'est quand même, au premier abord, des gens qui sont tous très ancrés dans la réalité de tous les jours.
C'est vrai que j'ai écrit Crépuscule des Anges maintenant il y a quelques années, donc il n'y avait pas encore le débat qu'on a eu ces derniers mois, mais mes personnages, j'ai envie de dire, ils débarquent, armée comme Athéna sortant de la cuisse de Jupiter. Donc Lynn s'est présentée à moi telle qu'elle elle s'est construite petit à petit, mais je savais qu'elle allait m'en faire baver plus d'une fois. Et ce qui m'intéressait justement, c'était partir de cette banale enquête qui se termine tragiquement, et de voir comment sa vision de la réalité a complètement changé. Elle vivait dans une ville où effectivement l'Église, la religion était omniprésente, mais pour elle, ça ne la gênait pas plus que ça, c'était une donnée en plus du reste. Et enfin, quand le meurtre intervient et qu'elle commence à mener son enquête, non seulement elle va découvrir que la ville n'a pas été bâtie, construite pour n'importe quelle raison, mais en plus, elle va se découvrir avec une nouvelle identité.
En fait, c'est un peu difficile de répondre à ça dans la mesure où, enfin, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, on ne se pose pas la question justement, est-ce que je vais créer un héros, est-ce que je vais créer... soit l'histoire va l'imposer. Et en plus, moi, très souvent, je vais partir des personnages. Donc un personnage me vient, j'ai une vision d'un personnage et l'histoire va se construire autour. Mais en plus, je n'ai jamais été intéressée tellement par la figure du héros qui est quelque chose... je ne sais pas, en plus, je me faisais la réflexion, j'ai grandi en lisant Stephen King, par exemple. Et des choses qui sont intéressantes chez lui, c'est que ces personnages, c'est vraiment c'est l'Américain moyen, c'est des adolescents ordinaires dans lesquels on peut se projeter. Et d'une part, parce que ça permet de traiter des thèmes qui vont parler directement au lecteur, ça permet une identification plus grande. Et peut-être, je ne sais pas, moi, ce sont les thèmes que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment les thèmes de la vie de tous les jours, en fait. Donc, j'ai du mal à avoir une réflexion vraiment poussée sur ça, parce que la question ne se pose pas. Le texte impose le personnage, ou le personnage impose l'histoire. Je sais pas trop comment développer sur ça.
Quoique certains des personnages parfois sortent un petit peu de l'ordinaire.
Parce que
dans Arlys des Forains, un gamin qui vit dans une dans dans une caravane de forains qui se déplacent pour présenter son spectacle de ville en ville, c'est quand même déjà un tout petit peu hors de l'ordinaire.
Ça, ce qui est amusant, c'est que c'est un texte qui est assez ancien. J'ai inventé les personnages vers 20 ans, ils sont très différents de ce que je fais maintenant. J'étais plus intéressée par des personnages qui soient, j'ai envie de dire, plus personnages que personnes, plus des figures avec une silhouette extrêmement marquante, etc., plus que d'être dans le ressenti des gens. Et dans ce roman, maintenant, j'ai quand même pris le point de vue du personnage le plus proche du quotidien, qui est celui d'un petit garçon, presque ordinaire finalement. Mais en fait, je pensais, il y a une chose qui m'intéresse aussi beaucoup et qui peut être assez troublante, c'est dans le fantastique en particulier. Quand on prend un narrateur ordinaire, ça peut rendre extrêmement troublant le moment où il y a un décalage par rapport à la réalité. Et notamment, j'ai un texte dont on me reparle souvent qui s'appelle Rêve de centre, qui est dans Serpentine, qui est raconté du point de vue d'une lycéenne ordinaire. Et c'est un personnage qui est peut-être. Elle est peut-être folle, peut-être pas, mais simplement elle raconte les choses de son point de vue. Elle est fascinée par le feu. Elle est persuadée qu'enfant, elle a une vision d'un phénix dans les flammes. Elle va passer toute sa. Enfin, peut-être pas toute sa vie, mais des années à essayer de retrouver ce phénix. Et normalement, à un moment donné, le lecteur lit ça en disant « Mais il y a quelque chose de bizarre dans son raisonnement, quand même. » Sauf que, justement, je raconte ça du point de vue d'un personnage qui a tellement l'air de trouver ça normal que normalement, ça doit désarçonner le lecteur. J'aime beaucoup jouer avec ça, notamment. C'est qu'elle tout paraît ordinaire, et d'un seul coup, il y a un petit détail qui ne l'est pas, et on sait plus trop ce qu'il faut croire.
Moi, concernant mes personnages, j'ai voulu qu'ils soient inscrits dans la réalité au départ, simplement pour que les gens puissent s'identifier à Cassie et à Damien. Maintenant aussi, je prône un petit peu le anti-héros, c'est-à-dire que mes personnages sont un peu particuliers, ils ont des problèmes, ils ne sont pas forcément très agréables, ils ont du caractère. Et voilà, donc à partir de là, en fait, c'est vrai que les gens peuvent s'identifier à eux, tout en découvrant qu'ils sont un petit peu atypiques par rapport à des personnages basiques. Voilà, et ensuite, je suis tombée dans le moment où la fiction, en fait, rattrape la réalité. Et donc, on découvre la différence de mes personnages avec les gens normaux. Voilà.
Alors, là, on vient d'aborder... Pardon. Nous venons d'aborder l'aspect des personnages. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant... c'est que toutes les trois, vous avez chacun une approche très différente des lieux, parce que l'environnement est aussi extrêmement important. Alors, évidemment, on part d'un environnement qui est véritablement l'environnement du coin de la rue, c'est le magasin qu'on peut voir, c'est l'aire d'autoroute sur laquelle on peut s'arrêter, par exemple, dans une des nouvelles de Mélanie, c'est le métro qu'on prend... c'est, dans certains cas, la boutique de tatouage dans lesquelles certains peuvent aller, etc. Donc, vraiment, des endroits qui sont ceux qu'on peut voir tous les jours. Et puis ensuite, il y a une sorte, je dirais, de progression dans l'éloignement, parce que chez Oksana, dans Go to Hell, l'action se déroule dans une ville américaine qui est la ville de Fairfield, mais qui n'est pas manifestement pas l'un des Fairfield existants. J'ai pas trouvé l'état.
Dans le Connecticut.
Ah ok, Fairfield dans le Connecticut. Oui. Donc on s'est déjà éloigné, on a traversé l'Atlantique. Et puis alors, chez Corinne, on est toujours de l'autre côté de l'Atlantique, mais dans la ville de Trinity. Dans un Canada qui a quand même évolué par rapport au nôtre, où l'Église catholique a fondé cette cité dans un futur qu'on sent relativement proche, mais quand même indéterminé. Donc on est de plus en plus loin, on n'est plus du tout au coin de la rue, là. Donc qu'est-ce qui détermine ce genre de choix? Est-ce que c'est comme pour les personnages ou...
Moi, j'avais commencé par faire des recherches pour situer l'histoire en France, dans une ville, mais il aurait fallu que j'aille me rendre dans la ville, parce que j'ai ce souci de ressemblance qui fait que je ne voudrais pas que le lecteur, en me lisant, sorte de l'histoire, parce qu'il y a des détails que j'aurais mal interprété ou mal rendu pour l'histoire. Donc, j'ai choisi d'imaginer complètement la ville, notamment parce que j'avais cette nécessité d'accorder à l'Église une place plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui dans le tissu urbain actuel. Donc il me fallait vraiment une ville faite sur mesure pour l'histoire, pour qu'elle puisse ensuite servir les personnages et servir la quête du personnage principal. C'est pour ça que j'ai créé Trinity de A à Z. En plus, c'était intéressant d'imaginer l'histoire de la ville et comment on pouvait en arriver à ce qu'elle soit finalement le centre de l'histoire dans le Crépuscule.
En fait, Trinity, c'est une sorte d'état pontifical. Finalement, c'est l'état pontifical tel qu'il voilà, a pu exister à une époque transposée.
En beaucoup plus grand, parce qu'effectivement, l'Église n'est pas seulement présente physiquement dans le tissu urbain, elle est aussi présente dans les habitudes des personnages. J'ai un peu en tête ces cités, effectivement, imaginées dans les comics, etc., qui servent le héros Gotham pour la vie de Superman. Mais j'avais vraiment besoin d'avoir une ville qui soit au service de l'Église. Imaginez une sorte de super Vatican, mais sur un autre continent.
En fait, je m'aperçois de quelque chose, c'est que souvent ce que je vais écrire va être situé dans des décors qui sont réels, qui sont aujourd'hui, ici, maintenant, etc. Mais qu'en même temps, j'ai très rarement écrit sur des lieux existants et nommés comme tels. Je l'ai fait essentiellement pour une raison qui rejoint ce que disait Corinne tout à l'heure, c'est que le lecteur puisse pas sortir de la lecture à un moment donné en disant « Non, ça c'est faux ». Et je sais que notamment, avec le recul, je le ferai plus situer un roman comme Arlis des Forains aux États-Unis sans y être allé. J'ai fait des erreurs absolument grossières qu'on m'a fait remarquer ensuite et je ne veux plus le faire maintenant. Donc depuis, je n'ai plus situé qu'un seul texte aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans. C'était après y être allé et de manière extrêmement minutieuse, pointilleuse, je n'ai décrit que des choses que j'ai vues. Parce que je vis dans la terreur absolue de décrire un lieu qui n'existe pas. J'ai écrit sur le métro parisien, mais parce que là, c'est mon quotidien, je le connais, j'ai pu aller prendre des notes, etc. Souvent, ce que j'aime bien, c'est prendre un décor effectivement réel, mais quelque part presque archétypal. Je décris une boutique de tatouage. C'est un lieu existant parce qu'il est inspiré par l'endroit, la boutique où moi, je me suis fait tatouer. Mais c'est presque je ne sais pas comment dire. C'est l'essence d'une boutique de tatouage. Comment est-ce que moi, je me représente ça? Comment je me représente une aire d'autoroute? J'imagine un parking, j'imagine les distributeurs. Quels sont les petits détails qui vont poser le décor pour que immédiatement le lecteur pense à son propre vécu et qu'il visualise le décor sans que forcément je passe 10 pages à le décrire. J'adore en fait suggérer par petites touches et le lecteur va avoir l'impression que je décris un décor extrêmement réel ancré dans le quotidien alors qu'en réalité je l'ai très peu décrit. Je crois qu'il y a peut-être que 2 ou 3 de mes textes qui se situent dans des villes existantes en partie pour ça. Donc j'aime bien c'est quelque part ce paradoxe, c'est d'écrire des lieux existants mais sans trop rentrer dans les détails.
Moi j'ai déjà écrit au niveau des... D'autres livres que j'ai pu écrire qui ne sont pas publiés, que j'ai gardés dans un tiroir, principalement sur les États-Unis parce que c'est un pays que j'adore, déjà et d'une. Mais ensuite, c'est basé aussi sur mes inspirations principales. C'est-à-dire que j'adore les séries télévisions qui viennent de ces pays-là. J'adore le mode d'action, la façon dont ils écrivent. C'est tout un ensemble de choses qui font que, voilà. Maintenant, l'histoire de Gotwell se prêtait à ce pays, en fait. Je ne voyais pas Gotwell. En France, parce que j'avais besoin de beaucoup d'espace, j'avais besoin de longues routes où on peut circuler plus ou moins à fond la caisse. Tout un tas de choses qui font que j'ai préféré le faire aux États-Unis. Mais je n'ai rien contre le fait d'écrire sur la France au niveau des histoires, simplement c'est du urban fantasy et c'est vrai que la majorité de mes lectures sont ciblées sur le urban fantasy et aux États-Unis principalement, ou des villes imaginaires qui y ressemblent.
Maintenant que je sais que Superfield est au Connecticut, cela dit, le Connecticut, je connais un petit peu, et je voyais plutôt le Connecticut, l'état encore très rural, quelque part très préservé, avec les petites pelouses bien léchées, les jolies petites forêts bien entretenues, etc. Fairfield, les grandes avenues.
En fait, c'est un peu parallèle, c'est-à-dire que j'ai choisi Fairfield dans Connecticut, j'ai fait des recherches au niveau des écoles, des choses comme ça, mais mon Fairfield à moi est un peu imaginaire. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas, j'ai jamais mis aux États-Unis, donc je me permets certaines choses que je peux décrire qui n'existeront pas. Mais je prends le point central de Fairfield dans Connecticut. Voilà. Oui.
Les avenues se sont un peu allongées, mais c'est ce qu'il faut pour les courses-poursuites,
voilà,
etc. D'accord. Et alors, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans vos livres, parce que c'est ça qui était intéressant pour cette table ronde ici, c'est que vous avez chacune une approche très très différente ensuite, à partir du moment où vous commencez à développer l'intrigue. C'est que à partir de là, il y a des directions totalement différentes. Alors Mélanie nous a déjà expliqué un petit peu, et elle c'est vraiment là, dans le sujet de la table ronde, c'est vraiment le fantastique au coin de la rue. Et ce qui m'a passionné, c'est de voir que Mélanie rend ce fantastique qui est en même temps, quelque part, effectivement, très dérangeant, parce qu'après avoir lu cette nouvelle dans le métro, on va prendre le métro, on se dit « Ouh, qu'est-ce qui m'attend hein ?» bon. Et j'ai arrêté de manger grec depuis un certain temps. Je continue à prendre les autoroutes quand même, on est obligé. Et par contre, chez vous, il y a une ampleur qui est de plus en plus grande, soudainement. Alors, chez Oksana, on a une sorte de plan parallèle, hein, quelque part, d'où proviennent les soltes, ce que les gens appellent des démons, mais qui en fait n'en sont pas, apparemment.
Ce sont des créatures d'un autre monde.
Voilà. Et donc, on a ce point où on commence à découvrir un univers qui est quand même beaucoup plus étendu que le nôtre. Et puis alors, chez Corinne, là, ça se lâche complètement. À partir d'un début qui est somme toute relativement terre-à-terre, comme je le disais, à part cette ville un peu étrange. Et à partir de là, ensuite, on voyage de moins 70 000 avec une race pré-humaine,
plus ou moins comme les omnions. Ah oui, en fait, je suis partie de la fameuse conflagration du lac de Toba, le super volcan qui a explosé, qui aurait rayé de la carte la quasi-totalité de l'humanité. J'ai décrit ce qu'auraient pu vivre les survivants. Et ensuite, on avance au fur et à mesure et j'explique pourquoi il est question je m'amuse à trouver une explication aux fameuses figures des quatre personnages de l'Apocalypse. Et là où je me lâche après complètement, c'est vrai, mais où, curieusement, j'ai fait plus de recherches que pour Trinity, c'est comment les personnages finissent en enfer. Et là, effectivement, j'ai fait des recherches pour bien retrouver les différents endroits des enfers. J'ai étudié des tableaux représentant les enfers, donc là, j'ai fait plus de recherches parce que je voulais vraiment que l'auteur, le lecteur, puisse retrouver une certaine familiarité dans ces enfers en imaginant même carrément une bataille du Styx jusqu'à l'intérieur des remparts des enfers.
Oui, parce que chez vous, alors là, donc de moins 70 000 à un futur relativement proche mais indéterminé, c'est le grand combat final entre les anges et les démons qui décident de régler leur compte une fois pour toutes, mais interviennent en même temps dedans des personnages de la mythologie égyptienne, de la mythologie grecque, etc. Enfin, c'est quelque part le grand règlement de compte final, c'est une sorte d'Armageddon à la puissance 10 où tout va être soldé une fois pour toutes. Et on est parti finalement du personnage d'une brave flic dans une ville.
Oui, mais ce que je voulais aussi quand même laisser comme ouverture, c'est qu'il y a ce petit détail à la fin où on se demande, mais finalement, est-ce que le combat a vraiment été conclu? Est-ce que c'est vraiment le libre-arbitre qui aura gagné? Ou derrière, est-ce qu'il ne va pas y avoir autre chose? J'enquiquine mon personnage jusqu'au bout comme elle m'a enquiquiné au départ. Après, je la confronte à un certain nombre de situations qui la dérangent énormément parce qu'elle se disait ça y est, j'ai remporté la victoire, c'est tranquille. Mais derrière, il y a des petites choses qui vont faire qu'elle n'a peut-être pas tout gagné derrière. Voilà.
C'est vrai qu'on ne sait pas trop qui a gagné, mais il y a quand même des grands bouleversements. Hein.
Oui. Il y avait quand même la nécessité d'un combat pour remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a même un dragon qui intervient, il y a les anges qui se combattent au fil de la ville, et puis les démons qui leur répondent, les figures mythologiques de l'Apocalypse que j'ai lues et relues dans tous les sens pour justement les faire intervenir au bon moment. Mais je laisse encore une fois la possibilité au lecteur de décider si, qui a gagné et si effectivement on va repartir à zéro ou si on va continuer sur les bases qu'il y avait au départ.
Donc là on vient d'aborder ça et comme je le disais, on s'aperçoit, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'à partir d'un point de départ qui est quelque peu similaire, comment on peut arriver à trois univers qui sont totalement différents. Et alors Mélanie tout à l'heure disait que par moment elle choisit ses personnages, puis ensuite c'est un peu les personnages qui les portent. Et là je voudrais, moi ça m'intéresse étant un simple lecteur n'ayant aucun talent d'auteur et aucune imagination quelle qu'elle soit, de savoir, ça me fascine toujours d'essayer de comprendre comment à partir de ce point de départ vous pouvez développer ce genre d'univers. Qu'est-ce qui vous porte?
On a chacun, chacune, puisqu'on est trois ici, auteurs féminins, on a chacune, je pense, notre chimie, et on ne pourra jamais expliquer à quelqu'un qui n'est pas auteur comment ça fonctionne. Parce que même nous, parfois, on se demande, mais d'où ça vient? Les gens aussi se demandent, mais cette imagination, c'est possible? Qu'est-ce qui fait qu'en lisant un livre, en regardant un film, ou un top, il va y avoir un détail qui va nous interpeller? Mais chacun va fonctionner, vous pouvez poser la question à tous les auteurs qui sont présents là, chacun va vous dire qu'il a une façon de fonctionner différente. Donc ça va être un titre, ça va être une... Moi encore une fois c'était Victor Hugo parce que je le fréquente en tant qu'enseignante et puis en tant que lectrice depuis un certain temps. Mais Oksana je pense que ça va être autre chose, Mélanie ça va encore être une autre alchimie qui va se faire.
Moi j'ai tendance à répondre à ce genre de questions, des fois on compare un processus au langage des rêves en fait. Parce que ce qui est fascinant dans le langage des rêves, c'est que c'est des images qui se télescopent et qui n'ont absolument rien à voir entre elles, et pourtant on en tire une espèce de logique qui est complètement tordue, mais on se rappelle qu'il y avait un début, une fin, etc. Et moi j'ai tendance à fonctionner comme ça, et je me dis en général si j'ai un point de départ, et qu'ensuite il y a une histoire à peu près logique qui semble en découler, je sais que l'histoire est mauvaise. Parce que, en fait, les meilleurs textes que j'ai faits, a priori, sont ceux où, d'un seul coup, j'avais une première image, je joue avec pendant un moment, il ne se passe rien, et d'un seul coup, j'ai une deuxième image qui vient, et ma première réflexion, c'est de dire, mais non, c'est complètement absurde, ça n'a rien à voir. Et là, je m'arrête, je reviens derrière, je dis, ok, comment je peux relier ces deux points-là? Et je sais qu'en général, les histoires les plus intéressantes que j'ai faites, c'est celles où, d'un seul coup, ça se télescope, et même moi, je me dis, mais c'est quoi le point commun entre tout ça, en fait? Ça m'intéresse, tiens, je vais essayer de trouver. J'avais un texte où je disais... J'ai un texte en fait qui est parti de trois images, par exemple, qui s'appelle Le train de nuit. Et j'avais une espèce de train fantôme. J'avais une jeune fille qui écrivait des paroles de chansons sur les vitres du train. Et j'avais une araignée géante. Je suis partie de là en me disant, je ne sais pas comment, mais je vais me débrouiller, j'en fais un texte. Et vous pouvez vérifier, les trois images sont dedans. Donc, en général, je fonctionne comme ça. Mais si, par contre, j'ai une image et qu'à un moment, je me dis, tiens, il serait logique que tel personnage réagisse comme ça. Non, si c'est trop logique, je vais rentrer dans des schémas classiques. Et l'histoire va peut-être fonctionner, mais elle ne sera pas très intéressante. Donc en fait, moi, je suis constamment à la recherche de ce truc inconnu. Et je vois vraiment ça comme le langage des rêves, en fait. Il y a des images, il y a une espèce de logique qui les relie. Et on ne sait pas trop comment ça se produit, effectivement.
Pour moi, c'est pareil que Mélanie, en fait. Je vois des choses, en général, dans un roman, j'ai tendance à voir le début, la fin, mais je n'ai pas le milieu. Donc à moi de me débrouiller, en fait, pour lier le début et la fin. Après c'est vrai que c'est pas explicable dans le sens où on peut voir n'importe quoi et d'un seul coup avoir une idée. Moi ça m'est arrivé une fois de voir une publicité pour fromage, une boîte de fromage, Caprice des Dieux, et je me suis dit tiens, si j'écrivais une histoire sur des anges qui tombent du ciel, voilà, rien à voir, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que, et parfois souvent même j'ai des images qui m'apparaissent où je peux rêver de ma fin, de la fin d'un livre, et à partir de là j'ai le sujet principal, il me reste plus qu'à broder entre guillemets autour. Voilà,
ça me fait penser en fait une anecdote, quand j'avais lu le recueil de Neil Gaiman, Miroir des fumées, il a tendance à expliquer la petite histoire derrière chaque histoire, et j'avais été marquée par une nouvelle où il expliquait, ben voilà, je me suis endormie en écoutant la radio, je me suis endormie, il y avait une émission qui parlait de tueur à gages. Je me suis réveillée, ça parlait de vente en gros. Et il a raconté l'histoire, effectivement, de quelqu'un qui propose de tuer quelqu'un pour vous. Mais plus vous demandez de tuer de personne, et plus le prix va être bas. J'adore cette anecdote, en fait. Je trouve qu'elle est assez représentative, en plus.
Je pense que les auteurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Et donc, du coup, à partir d'un tout petit point comme ça, on peut faire un livre complet avec un sujet vaste.
Corinne ?
Un livre de science-fiction que j'ai écrit comme ça, c'était une citation qui m'avait frappée et j'ai décidé de l'écrire sur les baleines. Au départ, c'était les baleines, oui, mais j'en fais quoi de mes baleines ? Tiens, les fourmis, ça m'intéresse aussi. Hein. Je vais faire rencontrer les fourmis et les baleines. Oui, et puis une fois que je fais ça, je fais quoi ? Parce que les baleines et les fourmis, pour les faire se rencontrer, il me faut un endroit. Donc on va imaginer la planète qui va avec. Mais oui, ça peut être un truc complètement idiot, où vous êtes dans le métro, où vous êtes dans le train, où vous êtes même en voiture, ça serait plus dangereux. Et vous êtes en train de réfléchir ou d'écouter la radio, et tu dis le type à la radio, vous paraît intelligent, et vous dites « Ah, mais si, j'écrirais une histoire sur... » Mais c'est sans arrêt. Le problème, c'est que ça peut surgir comme ça, même en cours. Je suis en train de faire cours, et puis, ouais, c'est pas mal de faire une histoire là-dessus. Oui, non, mais c'est pas possible, là, j'en cours quand même. Enfin, peut-être que je me concentre sur mes élèves. Mais j'ai écrit une nouvelle chronique, où j'étais en train de faire des recherches sur la Renaissance. Je voulais faire un cours sur Léonard de Vinci. Je commence à faire mes recherches, etc. Et en même temps, je réfléchissais complètement à autre chose sur mais pourquoi il n'y a pas de chevaux aux États-Unis ? Tout ça s'est télescopé et ça donnait finalement la bataille de Marmignan avec d'un côté les chars inventés par Léonard de Vinci et de l'autre les Mayas sur les chevaux. Vous voyez bien que pour expliquer ça à quelqu'un qui n'arrive pas à suivre notre fil de réflexion, c'est complètement, c'est vraiment très difficile.
Il y a quelque chose qui m'intéresse moi, mais c'est plus en tant que nouvelliste, c'est souvent quand on nous demande des nouvelles pour des anthologies. Alors je sais tout de suite si je vais accepter ou pas en fonction du sujet, mais j'aime bien partir d'un sujet où je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à partir de ça. Et souvent me dire bon, qu'est-ce que moi je pourrais raconter d'improbable quelque part à partir de ça. Comme l'an dernier, on m'a demandé un texte de fantasy urbaine sur le thème des dragons, et j'ai tout de suite eu envie de le situer dans un pensionnat pour jeunes filles. Ce qui est a priori pas tout à fait ce à quoi on s'attendait en. Mais la façon dont on va présenter le thème, tout de suite, j'ai eu envie de faire ça en disant bon, je pense pas que tout le monde va faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, cette histoire de dragon, je vais la raconter hors champ. Ça va être un huis clos dans ce pensionnat. Et j'aime bien justement ce qu'on peut apporter de personnel sur un élément imposé. Et plutôt que de dire ben, je me retrouve emprisonné par un thème, c'est ok, il y a des contraintes, ça, ça et ça, c'est obligé. Comment je peux contourner les contraintes pour faire finalement ce que j'ai envie de faire ? Moi, c'est quelque chose qui souvent me motive presque autant qu'attendre que les idées viennent toutes seules en fait.
Là, avec ce que vous venez de dire, on est en plein dans le fantastique de tous les jours. Hein. L'imaginaire, la manière de fonctionner des auteurs, c'est assez impressionnant. Oksana, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Vous fonctionnez comme ça aussi ?
Oui, pour moi, c'est magique, ça ne s'explique pas. On est comme ça. Vous savez, le matin, on a des idées. Vous savez, le soir, on a des idées. Et on peut tout détourner. Donc, c'est pour ça.
Très bien. Je vois que l'heure est un petit peu en train de tourner. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, qu'on ne se retrouve pas pris de court dans 5 minutes ? Oui.
N'ayez pas peur.
Non. N'ayez pas peur. Les auteurs ne mordent pas et seront ravis de répondre à vos questions. À moins qu'aucun d'entre vous n'ait jamais lu de fantastique et donc n'ait aucune question à poser. Non, et ça fait partir madame, voilà, donc... Merci madame, vous voyez, vous avez lancé.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, justement, en démarrant sur quelque chose de très quotidien, très normal, d'essayer d'y rester ? De justement pas mettre de fantastique et juste parler d'une histoire de boulangerie et de commissariat d'en face et de surtout rien mettre de surnaturel, rien mettre de pas de lutin, rien et de rester vraiment dans la vraie vie ?
Ça serait pas amusant en ce cas.
Moi je l'ai déjà fait, j'explique. Enfin, j'ai tendance à dire l'idée amène le texte. Si le texte demande d'être écrit comme ça, alors à moins que ce soit, comme je disais, pour une anthologie, il y a ça aussi qu'il faut voir. Si c'est pour une commande et qu'on a une contrainte, ça m'est déjà arrivé de m'obliger à mettre un élément fantastique parce qu'il était dans le contrat quelque part. Moi, je considère que j'écris pas très différemment finalement l'un ou l'autre. Il se trouve que j'adore les éléments fantastiques, donc à un moment donné, ça revient. Mais moi, je me sens parfaitement capable de le faire et je vais... je trouverais dangereux à la limite de m'interdire de le faire parce qu'on a l'habitude que... Sauf si effectivement c'est une commande et que j'ai une contrainte, là c'est différent. Mais pour moi, il n'y a pas de grande différence à partir du moment où l'histoire va dans la direction qu'elle doit prendre et que je ne suis pas en train absolument d'essayer d'attirer dans l'autre direction.
Quand j'étais adolescente, je m'amusais à écrire des romans historiques. Je passais un temps fou dans les manuels d'histoire qu'on me donnait au lycée et puis après, à la bibliothèque, j'avais les copines qui me voyaient sortir avec des bouquins en disant « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Des recherches, ne vous inquiétez pas. » D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire sur les croisades à cause de ça parce que je faisais des recherches pour un bouquin. Et quand je suis arrivée à la fac, il y a un chargé de TD, qu'on nous appelle, qui nous assomme déjà avec leur bibliographie et qui m'a balancé froidement « Je déteste les romans historiques. » Quand je l'ai vu, je me suis dit « Je ne pourrais plus jamais en lire parce que systématiquement, j'aurais cette image du chargé de TD qui dira « Les romans historiques, c'est n'importe quoi, les gens ne font pas de recherche, ils inventent, c'est pas possible. » Donc moi, j'ai décidé à ce moment-là, et c'est même à partir de là que je n'ai lu que de la science-fiction, de la fantasy ou du fantastique, j'étais sûre que le bonhomme que j'avais en face de moi n'en lirait pas. Donc, ne disant que ça, ça fait que j'ai laissé tomber les romans historiques à écrire et j'ai basculé dans la science-fiction à fond. Enfin, quand je dis science-fiction, fantasy, fantastique. Mais j'allais chercher des points de détail, des choses qui m'ont servi après, 4 ans plus tard, c'est moi qui ai imposé mon sujet de mémoire à la directrice de recherche parce que j'avais plein de détails sur les croisades. Et je serais aujourd'hui me mettre à écrire un roman historique sur les croisades. Forcément, à un moment donné, il y a un truc qui va clocher. Enfin, je vais faire intervenir du fantastique parce que ça va m'ennuyer. Parce que c'est devenu le travail, en fait. Comme je suis enseignante d'histoire-géographie, si je ne commence pas à séparer les deux, à un moment donné, je vais faire une gaffe avec les élèves. C'est possible. Mais j'ai compartimenté. L'histoire-géo, c'est devenu maintenant le travail. La science-fiction, c'est je m'amuse et je suis sûre que... Je n'aurais pas de copie à corriger sur une date à donner en science-fiction.
Mais du coup, tu te retrouves à faire des recherches poussées sur les enfers, c'est assez amusant.
Mais même quand je fais des cours, quand je prépare des cours en français, j'ai cherché pour... je voulais faire travailler les élèves sur les héros d'hier. Donc je me suis amusée à chercher sur Noé. De Noé, je suis allée remonter sur un article en anglais qui parlait de sa naissance un peu spectaculaire, parce que j'ai découvert, moi, en faisant des recherches, que Noé avait les cheveux blancs, blond, presque blanc, et les yeux bleus. Ce qui, dans la région, me paraissait un peu curieux. Je remonte, et ça m'a donné une idée pour un roman fantastique. Par contre, le cours, lui, il est tombé à la poubelle. Hein. C'est pas la peine, parce que j'avais trop peur qu'à un moment donné, ça se télescope. Il m'arrive de temps en temps de faire se rencontrer mes deux univers, d'auteur et d'enseignant, mais dans un cadre bien précis, parce qu'il faut que je respecte le programme, etc. Les élèves, eux, sont ravis de savoir qu'ils ont un écrivain en face, parce que comme ça, ils en discutent pendant une heure et on fait pas cours. Mais moi, il faut que j'ai un cadre, parce que j'ai un programme, et que derrière, j'ai aussi les contraintes de l'examen, etc. Donc, faire se rencontrer ces deux univers, j'essaye en ce moment de faire, mais très prudemment. Parce que je les ai tellement cloisonnés en disant l'histoire géo, c'est le boulot, et la science-fiction, c'est je m'amuse, que c'est un peu compliqué de faire rentrer. Mais j'ai la chance extraordinaire d'enseigner en lycée professionnel, et depuis 3 ans, on enseigne aux élèves la science-fiction au lycée. Donc, c'est le rêve total. Je m'éclate et personne ne vient me dire « Mais Madame Vico, vous n'êtes pas dans les programmes. » Si, monsieur. Je veux parler des robots, c'est dans le programme. Je veux parler des clones, c'est dans le programme. Vous n'êtes pas me casser les pieds. Mais avant, ouais, tu fais de la science-fiction. Mais ils comprennent. Oui, puis j'adore ça. Ouais, tu fais la légende des siècles. Ils comprennent. Quand on présente la légende des siècles aux élèves sur un certain angle, ouais, ils comprennent. C'est assez amusant justement de pouvoir se rencontrer le travail et l'écriture et la fantasy ou le fantastique qui viennent se télescoper là-dedans.
Oksana, quelque chose à ajouter ?
Non, donc comme je disais, ça ne m'amuserait pas d'écrire un texte en fait, qui reste dans la réalité. Je ne m'attaque pas à le faire, simplement. C'est vrai que de toute façon, même si je le voulais, à un moment ou un autre, il y aurait forcément les éléments fantastiques qui me sauteraient à la figure et qui m'obligeraient à détourner mon chemin. Donc, je me plie. Voilà.
Par contre, je pensais à la question au fait de départ. Il y a une chose que je peux répondre à ça aussi, c'est que le fantastique, comme les autres genres, a un certain nombre de codes. Moi, j'écris des nouvelles qui, en général, restent quand même beaucoup dans les codes du fantastique. Et je me suis aperçue depuis un an ou deux que je vais bloquer sur certains aspects, je viens de mettre un nom dessus. Il y a des scènes codifiées que j'ai plus envie d'écrire. Par exemple, j'ai beaucoup écrit la scène du personnage ordinaire qui se retrouve face au surnaturel et sa surprise face à ça, et je m'aperçois que je ne veux plus jamais écrire cette scène. Donc, en ce moment, je suis en train de chercher des moyens de contourner ça. Un des risques de d'écrire dans ce genre, pour moi, c'est ça aussi. Enfin, après, voilà, bon, c'est mon approche personnelle de ça, après plus de 10 ans passés à en écrire.
Une autre question ?
Au fond.
Au fond.
Parce que ça débute pour l'instant en France et c'est plus, ça prend plus d'ampleur aux États-Unis. Mais je pense que l'édition française a commencé à bien ouvrir ses portes au niveau de tout ce qui est fantastique et aux femmes aussi, parce que jusqu'ici c'était beaucoup les hommes. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Maintenant, je trouve, c'est mon avis personnel, que la France est un peu hermétique à tout ce qui est ce qui sort de la norme en fait, ce qui est fantastique. Et donc, du coup, ils ont un petit peu de mal à être persuadé de la qualité des écrits de certains auteurs français dans le milieu du fantastique. Mais ça évolue quand même beaucoup.
Après, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des petites choses... c'est un petit peu hors sujet, mais je me disais... Par exemple, à la télé française, on a toujours méprisé le fantastique, plus ou moins. Et même le cinéma fantastique français, pas quelque chose de très réussi en général. On vient de réussir une série fantastique absolument extraordinaire qui s'appelle Les Revenants et qui, moi, m'a bluffé de bout en bout. Et je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer dans l'opinion publique. Rien que l'idée qu'on ait pu faire ça, en fait. Là, maintenant, en France, et on ne l'a pas fait en imitant les anglo-saxons, on a fait quelque chose qui est profondément français, sans chauvinisme aucun, et qui, en plus, est une des plus belles œuvres fantastiques que j'ai vues récemment. Et voilà, des petits détails comme ça. Et moi, qui avais l'impression, effectivement, que c'était un genre assez méprisé, je m'aperçois que, par exemple, je rencontre de plus en plus de professeurs et d'élèves, de lycéens, qui, je ne sais pas comment dire, qui ne prennent pas du tout ça de haut, qui me semble respecter autant le genre que s'il faisait étudier quelque chose qui ne soit pas du genre. J'ai pas une vision plus globale, mais j'ai l'impression qu'à des petits détails, les choses sont en train de changer.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rentrer dans les programmes. Le fantastique, on peut l'étudier en français. Comme la BD avant, moi j'avais un prof de latin qui m'a appris à nous a initié au latin avec Astérix. Vous imaginez un peu scandale à l'époque. Mais pas bien, mais nous ça nous plaisait à fond. Et comme on a des élèves qui sont extrêmement dans le visuel, qui regardent énormément la télé, qui sont plus branchés là-dessus, eh bien, par exemple, le programme de lycée professionnel qui a changé récemment, eh bien, la science-fiction, je peux en faire. Donc moi, quand on m'a dit ça, on m'a même demandé de former des professeurs pour faire de la science-fiction, parce qu'ils ne connaissaient rien. Et j'ai créé un projet il y a 2 ans, où j'ai fait, mes élèves ont joué le comité de lecture, j'ai eu et le soutien de mon proviseur et le soutien de la région Picardie où j'étais, pour créer une anthologie sur les robots. J'ai donné le bouquin à mon inspecteur de lettres, parce que je n'aurais jamais osé faire avant. Je lui ai donné aussi le livret pédagogique que j'avais fait, et lui, il a diffusé auprès de tous les inspecteurs en disant c'est extraordinaire ce qu'elle a fait, allez voir, voilà, on peut mener ce genre de projet avec les élèves. Ils se sont découragés, eux, en cours de route, les élèves, ils ont lu. Et comme j'ai des élèves de lycée professionnel, c'est parfois compliqué de les faire lire. Mais les robots, ça leur a plu, donc ils ont commencé... sur le projet, plutôt enthousiaste.
Oui. Moi, pour rebondir un petit peu, c'est une question que je vais vous poser, parce que je pense que Madame a ouvert un point qui est important. Est-ce que ce n'est pas le fantastique contemporain qui est méprisé ? Il ne faut pas que, comme on est en France, il y ait le poids des années par-dessus. Alors, les auteurs fantastiques français du 19e siècle Nodier, Maupassant, Hoffmann, etc. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi le poids des ans qui viennent s'y ajouter ?
Non, parce que dans les manuels, on a des textes fantastiques il y a 2-3 ans. On en trouve. Je ne pourrais pas vous donner là de titre de mémoire, mais... J'ai même des œuvres de science-fiction tout à fait récentes. Ce qui marche très bien, par exemple, c'est le journal d'un clone de Gudule qui tourne énormément dans les classes. Et il n'y a pas de texte à quelques années maintenant, mais ce n'est pas un siècle qu'il a par rapport à nous. Donc non, Emmanuel commence enfin, les professeurs commencent enfin à comprendre que les textes récents, on peut aussi les étudier. En plus, c'est quand même plus intéressant de faire venir un auteur vivant en classe. Les élèves, ils aiment bien, même s'ils leur demandent toujours la même question. Daniel Martini, comme j'ai fait venir deux fois dans les classes, chaque fois la question, et moi j'étais là, mais bon sang, trouver autre chose à lui demander, je vous ai déjà répondu moi de mon côté quand on m'avait posé la question, mais les élèves sont très friands de ça, un auteur vivant qui vient les voir, Théophile Gautier, pour le faire venir dans les classes, c'est un peu compliqué.
Mais ça serait vachement intéressant.
Oui, très fantastique surtout.
Très bien, et bien on fait... L'heure a tourné, donc je propose que nous restions sur cette note extrêmement optimiste sur l'avenir de ces littératures que nous aimons tous, en particulier celle du fantastique, qui passe, j'en suis ravi, maintenant dans les programmes de lycée, et je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos trois intervenantes.